Les aventuriers de l'étrange. Louis Bénédit, sur Sud Radio.
Bonsoir et bienvenue dans Les aventuriers de l'étrange. Ce soir sur Sud Radio, nous allons ouvrir deux dossiers dans cette émission. Début novembre s'est déroulé le festival des arts visionnaires, ça se passait à Sedan, et ce festival s'appelle Chimeria. Je recevrai donc un ethnobotaniste pour nous en parler. Il s'agit de Romuald Le Terrier et avec lui nous découvrirons les rapports tout à fait étonnants qu'entretiennent les chamans de la forêt amazonienne avec leur environnement végétal et surtout comment ils y puisent leur savoir. Pour la première heure, en revanche, je recevrai Frédéric Lenoir, directeur de la publication du Monde des Religions et auteur d'un livre tout à fait passionnant, Le Christ philosophe, paru aux éditions Plomb. Dans ce livre, en tant que philosophe et historien des religions, Frédéric Lenoir s'est attaché à découvrir les différences qu'il existe entre la pensée chrétienne primitive, celle vraiment des tout premiers temps, des toutes premières heures, et celle d'aujourd'hui. Autant vous dire que ces deux heures qui arrivent s'annoncent tout à fait passionnantes. Mais avant de retrouver mon premier invité, une annonce. Le jeudi 29 novembre, à l'auditorium de la clinique Saint-Jean de Languedoc, à côté de Toulouse, va se tenir une conférence sur les expériences de mort imminente. Je sais que c'est un sujet que vous êtes nombreux et nombreuses à avoir envie de découvrir. Une conférence que je vais avoir le plaisir de vous présenter jeudi 29 novembre au soir avec à mes côtés le docteur Jean-Jacques Charbonnier qui est médecin, réanimateur et auteur de nombreux ouvrages sur ce sujet et également Jean Morzel qui a vécu une expérience de mort imminente extrêmement impressionnante et qu'il nous racontera. Ce sera donc jeudi 29 novembre à 20h30 pour réserver, voici un numéro de téléphone. 05 61 52 78 39 05 61 52 78 39 ou vous pouvez également vous rendre sur le site sudradio.fr et vous allez à la page des aventuriers de l'étrange.
Les aventuriers de l'étrange, Louis Bénédit sur Sud Radio.
Frédéric Lenoir, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directeur de publication du Monde des Religions. Vous êtes l'auteur d'un livre extrêmement intéressant, paru aux éditions Plomb, qui s'intitule « Le Christ philosophe ». Livre dans lequel vous avez, de manière tout à fait objective, me semble-t-il, après nous en discuterons ensemble, nous en débattrons durant l'heure qui va arriver, retracé l'histoire de l'évolution de la pensée christique, chrétienne, depuis le début. Évidemment, et la naissance des dogmes au fur et à mesure des siècles passants jusqu'à nos jours. Qu'est-ce qui vous a donné envie actuellement de vous plonger dans un ouvrage aussi complexe à réaliser ?
Ben, en fait, c'est parce que je m'intéresse donc à l'histoire des religions depuis longtemps et notamment aux évangiles et au christianisme, et je constate autour de moi que on connaît très très mal l'histoire de la pensée chrétienne qui a joué un rôle déterminant dans l'avènement de la modernité, du monde moderne dans lequel nous vivons, oui. D'une part, et d'autre part, on connaît encore moins, j'ai envie de dire, l'originalité très profonde, novatrice, qu'a été le message des évangiles, donc la parole du Christ, hein, telle qu'elle nous a été transmise par les évangiles. Et ce qui m'a intéressé, c'est de, si vous voulez, de briser un certain nombre d'idées reçues, de préjugés, d'a priori, de méconnaissances, en montrant d'une part que le message des évangiles était tellement révolutionnaire, tellement fort, tellement novateur, qu'il n'a pas été reçu, compris, mis en œuvre par les disciples qui avaient la charge de transmettre, et que même l'Église en est arrivée à certaines périodes de l'histoire à faire exactement l'inverse que ce que ce message prônait. Et ensuite, la deuxième chose, c'était de montrer que ce message avait une telle modernité qu'il a joué un rôle déterminant 1500 ans après, lors de l'avènement de la Renaissance et des Lumières, et qu'une grande partie de ce qui sont aujourd'hui nos valeurs essentielles, la démocratie, les droits de l'homme, l'égalité de l'homme et de la femme, et bien d'autres choses, proviennent profondément de ce message évangélique sans lequel on n'en serait pas là aujourd'hui. Donc voilà, il y avait un désir d'apporter, je dirais, de la culture, de la réflexion dans des domaines qui sont très importants et sur lesquels on ne connaît pas bien le rôle complexe et paradoxal qu'a joué l'histoire du christianisme, parce que l'Église a bien entendu, à certains moments de son histoire, lutté profondément contre l'émancipation justement de l'individu, contre l'égalité de la femme, contre la séparation du politique et du religieux, autant de choses prônées par le Christ, et d'où une confusion dans les esprits. Ouais. Moi, je connais plein de gens autour de moi qui me disent, mais au fond, la République démocratique, la modernité, ça s'oppose totalement au christianisme. Ben, c'est faux. Ça s'oppose, ça s'est opposé historiquement profondément à l'Église catholique, mais pas du tout au message des évangiles.
Non, c'en est même un prolongement, c'est ce que vous démontrez d'ailleurs dans votre livre. Alors, pour que l'on puisse bien cerner votre personnalité, Frédéric Lenoir, vous êtes philosophe, historien des religions, je l'ai dit, directeur de publication du Monde des religions. À titre personnel, je ne sais pas comment formuler la question, êtes-vous croyant ou avez-vous la foi ?
Moi, si vous voulez, je suis un humaniste. C'est-à-dire, à titre personnel, ce qui m'intéresse le plus, c'est l'homme. Ouais. C'est véritablement comment fonder une cité humaine sur des valeurs communes qui permettent le respect, de vivre ensemble, quelles que soient nos différences, quelle que soit la différence de nos croyances. Et pour moi, c'est vraiment ça, à titre personnel, ma conviction profonde, c'est que dans toutes les religions, dans toutes les cultures, vous avez des vérités, vous avez des choses fortes qui permettent d'unir les hommes, et vous avez des dogmes, vous avez des éléments de violence qui les divisent. Donc, je me situe, si vous voulez, pas dans une religion contre une autre. C'est pas mon point de vue. Mmh. Maintenant, au niveau de mes intimes convictions sur le plan de l'au-delà, c'est-à-dire est-ce qu'il existe un monde invisible, est-ce qu'il existe quelque chose après la mort, c'est un petit peu ça, je pense, le sens de votre question. À titre personnel, je dirais que je suis plutôt croyant dans le sens où j'ai le sentiment, si vous voulez, que le monde réel tel qu'on peut le toucher, tel qu'on peut l'analyser par la science, la matière, n'épuise pas le réel profond. Et je crois qu'il existe effectivement un monde invisible qui nous enveloppe, qui est fait de choses qu'on ne peut pas encore comprendre. Et donc je pense, si vous voulez, qu'il existe effectivement un au-delà de ce monde. Oui. Et je crois qu'il y a quelque chose après la mort. Mais là, on est vraiment sur le registre de la conviction, pas du tout de la certitude rationnelle. Mmh, Pour le plan intellectuel, je suis un agnostique, c'est-à-dire je suis quelqu'un qui n'ait aucune certitude sur l'existence de Dieu ou pas. Sur le plan maintenant, je dirais plus affectif, plus du cœur, plus de l'intuition, je fais partie de ceux qui pensent que la vie a un sens, qui pensent qu'il existe un destin, que quelque chose nous échappe, si vous voulez. Mais je ne saurais pas le nommer. Dans ce sens-là, je ne me situe pas dans une religion particulière, je ne pratique pas une religion particulière, mais je suis touché par tous les messages spirituels ou philosophiques, au sens où l'entendaient les Grecs, hein, existentiels, qui sont attentifs aux questions ultimes de l'existence.
Oui. Alors, dans votre livre, j'ai appris énormément de choses. Un livre qui, je le signale au passage à ceux et celles qui nous écoutent, est extrêmement facile à lire. Ça n'est pas une thèse, ça n'est pas quelque chose d'absolument abscond, de compliqué, où il faut avoir une culture générale et une culture des religions très très pointue. Vous l'avez voulu à la portée du plus grand large, du plus grand public possible.
Tout à fait. Ça me paraissait extrêmement important. Aujourd'hui, vous savez, si on écrit une thèse ou un essai universitaire, on touche 3 000-4 000 personnes. Moi, j'ai pris le parti depuis des années d'essayer de transmettre un peu de connaissances et de culture et de réflexion et de partager la réflexion avec le plus grand nombre, parce que c'est ça qui m'apparaît intéressant. Mmh. J'ai écrit des romans, notamment des romans historiques, qui véhiculent aussi un peu de connaissances et qui sont lus par des adolescents de 14 à 20 ans, et c'est ce qui m'intéresse le plus. C'est véritablement si vous voulez, quelque chose qui permette aux gens de se faire leur propre opinion à partir d'un élément de réflexion, de culture, de connaissance. Et je trouve que la philosophie, elle est là pour nous apprendre à penser par nous-mêmes. Oui. Et moi, c'est ce que j'ai reçu. La philosophie m'a permis d'apprendre à me faire une opinion sur les choses. Et comme tout le monde n'a pas le temps, le loisir, la possibilité de consacrer 10 ans de sa vie à étudier les grands penseurs, j'ai eu cette chance et j'essaye de redonner ce que j'ai compris, ce qui m'a le plus intéressé à un public qui simplement se pose des questions et après il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de culture ou fait beaucoup d'études pour lire mes ouvrages.
Ouais. Alors vous faites la référence aux ouvrages qui vous ont inspiré, dans lesquels vous êtes peut-être replongé pour écrire ce livre, Le Christ philosophe, aux éditions Plon. Quelles sont vos références justement ? Il y a évidemment les évangiles, mais il y a également les penseurs grecs et il y a d'autres textes sur lesquels vous êtes appuyé pour étayer tout ce que vous nous dites dans ce livre.
Bon, si vous voulez, il y a 3 choses. Vous avez les évangiles, et déjà, faire une lecture très attentive des évangiles, j'ai essayé de synthétiser, on va dire, la philosophie du Christ, c'est-à-dire son éthique, au-delà de la religion. Quel est ce message universel qui fait qu'il nous parle encore ? Donc j'ai synthétisé dans les évangiles, qui sont pas très faciles à lire pour quelqu'un qui n'est pas habitué, où est-ce que le Christ va montrer que l'homme et la femme sont absolument égaux, que tous les êtres humains, quelle que soit leur culture, leur religion, leur race, etc., sont d'égale dignité, que l'amour est au-dessus de la foi, est au-dessus de tous les dogmes, etc. Donc j'ai montré qu'il y a une éthique universelle dans le christianisme qui est dans les évangiles, et j'ai essayé d'en faire la synthèse. Donc ça, c'est déjà tout un premier travail. Après, si vous voulez, il y a un deuxième travail qui est de montrer comment, à partir de la Renaissance, essentiellement le 15e, 16e siècle, et ensuite les Lumières, les auteurs de la modernité, c'est-à-dire ceux qu'on cite aujourd'hui comme les pères fondateurs du monde moderne, ça va de Erasme, Voltaire, Locke, Kant, comment tous ces grands penseurs, qui étaient certains croyants, d'autres n'étaient pas croyants, certains étaient francs-maçons, d'autres étaient catholiques, il y avait de tout.
Voltaire et Kant étant sur la liste interdite par l'Église à un moment.
Bien sûr, mais ce sont des gens qui sont opposés fortement à l'Église, et qui en même temps connaissaient très bien les évangiles, connaissaient très bien cette éthique, cette philosophie du Christ dont je parle dans le livre, et se sont appuyés sur elle pour lutter contre l'Église. Et c'est ça qui m'a intéressé dans ce livre, c'est de montrer le grand paradoxe de l'histoire du christianisme, c'est que finalement, le message évangélique a été porté par l'Église, malgré tous ses égarements, malgré l'Inquisition, dont je parle longuement pour expliquer qu'elle a été une perversion totale de ce qu'est le message chrétien, malgré tout, l'Église a porté ce message jusqu'à la connaissance des modernes, qui l'ont utilisé contre elle, en disant, ben, vous parlez de séparation, Jésus parle de séparation du politique et du religieux, ben, faisons-le, créons un État laïque où la religion n'a rien à dire, où chacun est libre de croire comme il veut, mais c'est pas la religion qui va gouverner la cité. Et donc, ils ont mis en œuvre, si vous voulez, une grande partie de l'éthique du Christ contre les institutions religieuses. C'est pour ça qu'aujourd'hui, effectivement, on a le sentiment que la religion s'oppose au monde laïque, s'oppose à la modernité, s'oppose à la démocratie. Mais c'est vrai, historiquement, dans le combat qu'a mené l'Église catholique contre l'émergence du monde moderne, c'est faux si on regarde les choses du point de vue de l'histoire des idées. Et dans l'histoire des idées, on voit que les penseurs de la modernité se sont appuyés sur l'éthique du Christ pour essayer de créer le monde laïque, les valeurs démocratiques telles que nous le connaissons aujourd'hui.
Oui. Il y a d'ailleurs, j'ai découvert avec effarement, parce que je m'étais jamais plongé réellement dans cette étude, fin du 19e siècle, une position du pape et de l'Église catholique romaine qui est absolument sidérante et hallucinante dans ce qu'il...
Assez hallucinant.
Ah, oui,
c'est le syllabus de Pie IX.
Oui.
Alors effectivement, face à cette émancipation de la société par rapport à la religion, c'est tout simplement parce que la religion progressivement diminue, parce qu'on la remet à sa place, c'est-à-dire dans les consciences individuelles, elle ne régente plus toute la société, le pape va se raidir de plus en plus et condamner le monde moderne. Et alors là, j'ai donné tout un certain nombre d'extraits.
Ah bah écoutez, si vous permettez, je vais en citer quelques-uns. Dans ses encycliques, donc, le pape condamne en vrac la liberté de conscience et de culte, les droits de l'homme, la liberté d'expression, le mariage civil, la séparation de l'Église et de l'État, la philosophie, l'athéisme, le protestantisme, le socialisme. Il y a de quoi se faire dresser les cheveux sur la tête.
Ah bah, tout ce qui n'est pas catholique et romain est condamné comme des égarements dangereux, sataniques, et des auteurs, il faut savoir que des auteurs profondément chrétiens, comme Victor Hugo, ont été condamnés, vivement condamnés par le pape, parce que simplement, ils étaient libéraux, et ils pensaient que le christianisme, justement, pouvait parfaitement s'accommoder d'un univers profane, démocratique, d'une république. Il faut voir que le pape a été jusqu'au XXe siècle le souverain d'une sorte d'empire, c'est-à-dire qu'il régnait sur des territoires, d'ailleurs le Vatican reste encore un État, hein, qui a des ambassadeurs, etc., mais c'est la survivance de ce qui a été un État très puissant, qui avait une bonne partie de provinces italiennes, et qui se considérait donc comme un chef d'État avec un pouvoir temporel. Et ils ont lutté jusqu'à la fin du XIXe siècle pour conserver ce pouvoir temporel. Alors que, et le paradoxe est là, ce que j'essaie de montrer, alors que le Christ dans les évangiles ne cesse de dire que son royaume n'est pas de ce monde. Et donc il sépare le politique et le religieux. Et là, c'est une décontradiction extraordinaire dans laquelle l'histoire du christianisme est allée. C'est que sur ce point-là, comme sur d'autres, effectivement, l'Église a été tentée par le pouvoir temporel, par la puissance, par l'argent, et donc il y a une contradiction flagrante entre ce message. Alors aujourd'hui, on n'en est plus là. C'est-à-dire qu'il y a évidemment, je montre bien les étapes historiques.
Oui.
Je montre bien que dans les premiers siècles, les apôtres vivaient, ils étaient martyrs, ils vivaient pauvrement, ils donnaient leurs biens. Les premiers évêques ont créé les orphelinats, les hospices. Donc il y a énormément de choses très positives qui ont été faites par l'Église. Et puis progressivement, il y a eu un basculement. c'est commencé véritablement à la fin du IVe siècle, lorsque Constantin dans un premier temps et Théodose dans un second temps, empereur romain, ont fait de l'Église catholique la religion officielle de l'Empire romain.
Juste après le Concile de Nicée, en fait.
Le Concile de Nicée, et puis ensuite le Concile de Carthage, et il y a eu progressivement, si vous voulez, une tentation du pouvoir temporel. L'Église est devenue puissante, et elle a pris goût au pouvoir temporel. Et elle a continué de faire des choses qui ont été admirables, parce qu'il y a eu effectivement quantité d'œuvres charitables qui ont été développées par l'Église, et puis à côté de ça, il y a eu des choses épouvantables, et dont la pire, à mon avis, que j'analyse en profondeur dans ce livre, parce que c'est vraiment la perversion totale du message chrétien, c'est l'Inquisition, c'est-à-dire torturer quelqu'un, le faire périr, au nom de la charité chrétienne pour sauver son âme. Et là, en violant sa liberté de conscience, on arrive vraiment à une absurdité totale, et j'essaie de comprendre comment on a pu en arriver là, et au fond, de montrer, c'est pour ça que je commence ce livre avec le...
Un extrait des Frères Karamazov, oui, de Dostoïevski, effectivement.
Voilà, avec ce passage extraordinaire des Frères Karamazov, où Dostoïevski raconte cette histoire qui est légendaire, mais qui est un passage d'anthologie que Freud considère comme le sommet de toute la littérature mondiale, qui est cette légende du grand inquisiteur, où Dostoïevski imagine qu'au XVIe siècle, au moment où l'inquisition espagnole est vraiment la pire, on brûle des centaines de gens tous les jours, il imagine que le Christ revient sur Terre et qu'il revient à Séville en Espagne. À ce moment-là, le grand inquisiteur le reconnaît, le fait mettre en prison et vient lui dire « Pourquoi es-tu revenu ?» alors que nous avons eu tant de mal à nous débarrasser de ce message de liberté que tu as lancé sur la Terre. Mais sache que les hommes ne veulent pas de la liberté, ils veulent de la sécurité. Et nous, l'Église, nous avons apporté la sécurité en empêchant les hommes d'être libres. Et là, il y a un dialogue de 20 pages extraordinaire entre le Christ et le grand inquisiteur, dont j'essaye de donner un petit peu la quintessence dans ces pages, qui ouvrent le livre et qui montrent bien la contradiction absolue à laquelle on en est arrivé. C'est comment se fait-il qu'un message qui libérait pour la première fois dans l'histoire humaine, qui libérait totalement l'individu du groupe, puisque c'est ça la révolution la plus forte apportée par le Christ, c'est que l'individu existe en tant qu'individu et qu'il est souverain et qu'il ne peut pas être soumis à la loi du groupe, donc il est libre de penser ce qu'il veut. Comment ce message révolutionnaire a été perverti au point que 1000 ans après, 1500 ans après, on va tuer des gens au nom de leurs convictions. Donc là, j'essaie de montrer ce paradoxe. Ouais.
Frédéric Lenoir, juste une chose également que j'ai découverte en lisant votre livre, c'est que parmi les sanctions que l'Inquisition a imposées aux soi-disant hérétiques qui tombaient sous leur torture, il y avait bon évidemment la prieure, le jeûne, le pèlerinage, etc., etc., la mort bien entendu. Il y avait également l'obligation, et ça va rappeler les heures les plus sombres de notre civilisation, l'obligation de porter sur ses vêtements une étoile brodée.
Et oui, c'est-à-dire que, de manière générale, le problème, si vous voulez, qui était posé à l'Église par les hérétiques, c'est qu'ils avaient une pensée divergente de la pensée dominante. Et donc, ce qui était, pour la société chrétienne, il faut comprendre qu'on était dans un monde chrétien dans lequel on considérait que c'était pas possible de ne pas être catholique. Et donc, ceux qui étaient différents, c'est-à-dire les Juifs, qui étaient la seule communauté religieuse qui était tolérée, je dirais, dans le monde chrétien, et les hérétiques, c'est-à-dire ceux qui avaient dévié, qui étaient des chrétiens qui avaient dévié, devaient être reconnus par des signes distinctifs. Mmh. Et donc, c'est là qu'est née la fameuse idée d'une pièce de couleur qui a joué un rôle, effectivement, ensuite dramatique à notre époque. Mais cette idée est née dans le monde chrétien. Il faut reconnaître ceux qui pensent différemment. Si possible, les éliminer, mais qu'on les élimine pas, au moins qu'on les identifie clairement. Ceux-là pensent mal. Voilà, c'est un peu cette idée-là.
Ouais. Frédéric Lenoir, une première pause dans Les Aventuriers de l'Étrange sur Sud Radio, et on se retrouve pour reprendre le fil conducteur, votre fil conducteur, c'est-à-dire chronologique, à partir de du Christ, et ensuite, jusqu'à nos jours, on va retracer, évidemment en survolant, parce qu'il faut absolument que les gens lisent votre livre pour bien comprendre la progression et la naissance des dogmes dans l'Église, enfin dans la chrétienté, dans le monde chrétien jusqu'à nos jours. On se fait une pause et on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.
Les Aventuriers de l'Étrange, Louis Bénédit, sur Sud Radio.
Frédéric Lenoir est mon invité ce soir sur Sud Radio dans Les Aventuriers de l'Étrange avec ce livre fabuleux qui s'intitule Le Christ philosophe, paru aux éditions Plon. Alors, Frédéric Lenoir, ce qui est intéressant dans votre démarche, c'est que on commence par le début, évidemment, en se posant la question qu'on est en droit de se poser, finalement, quand on est historien comme vous et que on se met à sa table de travail, le Christ, d'abord Jésus, a-t-il réellement existé?
C'est la première question qu'il faut se poser, parce que il y a 2000 ans, il reste plus beaucoup de traces historiques de ce qui s'est passé. Et je crois que pour tous les grands fondateurs de religions anciens, se pose vraiment la question, Moïse a-t-il existé? Bouddha a-t-il existé? Le Christ a-t-il existé? C'est une question qu'il faut se poser. Et donc moi, je fais au début du livre, à un moment donné, une enquête un petit peu auprès des historiens pour savoir ce qui plaide en faveur de l'existence de Christ et ce qui plaide plutôt en faveur de la non-existence du Christ. Alors, pour récapituler, parce que je ne vais pas rentrer finalement dans tous les détails, mais pour synthétiser les choses, on peut dire qu'il y a deux sources différentes qui nous permettent de connaître le Christ. Vous avez les sources chrétiennes, qui sont essentiellement les évangiles, les épîtres de saint Paul, qui a vécu 20 ans à peu près après le Christ et qui parle, donc qui est converti au christianisme, qui est un juif converti au christianisme, qui raconte un petit peu la naissance de toute la religion chrétienne. Vous avez les lettres des apôtres, qui sont diverses, grosso modo ce qu'on appelle le Nouveau Testament, qui sont donc des sources chrétiennes qui ont été écrites assez vite, c'est-à-dire que dans l'ensemble, ça s'est écrit entre 20 ans après la mort de Jésus et 50-60 ans après la mort de Jésus. C'est assez proche, c'est-à-dire qu'au fond, à l'époque, on avait une mémoire très importante orale, et c'est lorsque les témoins mouraient qu'on mettait par écrit les choses pour être sûr que la mémoire orale ne se perde pas. Mais faut savoir que, par exemple, pour le Bouddha, les premiers textes écrits qui mentionnent la vie du Bouddha, c'est 5 siècles après sa mort. Donc c'est beaucoup plus lointain. Donc là, on va dire entre 20 et 60 ans, on peut considérer que pour l'Antiquité, c'est des sources très proches et très fiables. Simplement, c'est des sources orientées. Parce qu'elles sont écrites par des chrétiens, par des disciples du Christ, par des disciples de disciples du Christ, leur rôle n'est pas d'informer. Elle est de convaincre, elle est de communiquer un message. Donc on peut les mettre en doute. Alors la question qui se pose, c'est est-ce que ces gens ont inventé toute cette histoire, la vie de Jésus, son message, etc. Ou est-ce que ce personnage a vraiment existé et a transmis ses paroles? Les deuxièmes sources, alors là c'est intéressant parce qu'elles sont non chrétiennes, ce sont des historiens de l'Antiquité. Il y en a essentiellement trois que je cite en donnant les références, citant les sources anciennes, qui sont du 1er siècle, donc légèrement postérieurs mais contemporains de la naissance du christianisme, et qui cite effectivement un certain Jésus-Christ ou le frère de Jésus, Jacques, qui a gouverné l'Église à peu près 30 ans après sa mort, et qui disent qu'il y a eu un certain homme nommé Jésus qui a été crucifié sous Ponce Pilate. Donc ça, on retrouve quelques sources extérieures, ce qui permet de valider de manière plus fiable l'existence du Christ, mais ce qui nous dit pas grand-chose sur sa vie.
Et alors, chose intéressante à titre anecdotique, ça peut être d'ailleurs la base d'un excellent scénario à la Da Vinci Code pour un film, c'est la source Q, c'est-à-dire la lettre Q qui vient du mot quel en allemand, qui veut dire source, c'est ça. Ce serait, alors, on suppose l'existence d'un manuscrit où auraient été retranscrites toutes les paroles de Jésus, manuscrit qui aurait disparu à la fin du 1er siècle à peu près.
Tout à fait. Alors effectivement, si on prend maintenant les sources chrétiennes, et juste pour terminer sur la question de l'existence du Christ, on n'a pas de preuves absolues comme on peut en avoir pour Jules César, parce qu'il y a des quantités de monnaie, de documents, etc. Mais on a une preuve par l'absurde. C'est-à-dire de dire au fond, qui aurait pu inventer une telle histoire que ça n'ait jamais eu de gens qui lâchent le morceau en disant, bah voilà, c'était construit de toutes pièces, et comment ça a pu avoir un tel impact sur ses contemporains que des dizaines et des dizaines de gens consacrent leur vie, meurent martyrs, etc., pour quelqu'un qui n'a pas existé, pour une légende. Personne ne peut lancer une légende aussi forte, aussi puissante, avec surtout, et c'est ce que je montre dans le livre, des inventions, c'est-à-dire les idées chrétiennes sont totalement novatrices. Et donc, il y a eu un événement, il y a eu une personne qui a véritablement créé une onde de choc. Alors après, on peut être certain de l'existence de Jésus. Après, il est bien évident qu'on ne peut pas être certain de toutes les paroles qui sont attribuées à Jésus. Et donc, toute la difficulté pour l'exégèse, c'est d'arriver à dire, cette parole semble authentique, cette parole ne l'est peut-être pas, elle a peut-être été inventée 30 ans après pour justifier telle ou telle action. Donc là, il y a un tri à faire, il est extrêmement difficile de le faire. Alors, pour répondre maintenant à votre question sur la source Q, ce qu'ont montré les exégèses et les historiens modernes, qui sont donc des scientifiques, qui ne sont pas forcément des croyants, et qui donc cherchent à comprendre le texte, on s'est rendu compte que les 4 évangiles avaient une source commune. Et que cette source commune, elle a disparu. C'est effectivement un recueil de paroles de Jésus qui doit être très ancien, ça qui a dû être écrit quelques années après la mort du Christ, qui a circulé dans toutes les premières communautés chrétiennes et qui a servi d'inspiration aux évangiles qui ont été écrits quelques décennies après sa mort. Et évidemment, ce serait, comme vous dites, l'objet d'un magnifique thriller,
ah oui,
d'essayer de se... C'est le cinquième évangile, finalement. Voilà, et c'est le premier en même temps.
Ouais.
Et ça, on en est à peu près sûr, sans en avoir de certitude absolue. Et peut-être qu'un jour, on va découvrir dans les sables d'Égypte, comme ça a déjà été fait, hein, on a fait des découvertes extraordinaires, les manuscrits Qumran, les manuscrits de Nag Hammadi. On pourrait très bien imaginer que dans les décennies à venir, on fasse une découverte archéologique la plus extraordinaire de l'histoire du christianisme, qui serait la découverte du premier évangile, cette fameuse source perdue.
Mmh, oui, qui mettrait sûrement à mal l'Église catholique romaine, d'ailleurs.
Pas forcément, on n'en sait rien. mais en tout cas, c'est vrai que il est clair... Déjà, les quatre évangiles existants mettent à mal l'Église catholique romaine. C'est-à-dire que les textes existants sont déjà une contradiction permanente. Par exemple, Jésus dit « N'appelez personne père, vous n'avez qu'un seul père qui est aux cieux ». Or, comment est-ce qu'on appelle les prêtres ? Mon père. Comment est-ce qu'on appelle le pape ? Très saint père. Alors que Jésus dit « N'appelez personne saint, seul Dieu est saint, n'appelez personne père, seul Dieu est père ». Et donc, on se rend compte que tout l'évangile est une contradiction, si vous voulez, à un certain nombre de dogmes, de pratiques, d'usages qui se sont développés après dans le christianisme. Puisque les hommes étant des hommes, et ben ils ont repris des habitudes humaines, et finalement, voilà, on s'installe ensuite dans la religion chrétienne, comme on s'installe dans n'importe quelle religion, avec les mêmes réflexes. Alors, et c'est une des thèses que j'essaie de montrer, que le message du Christ était une sorte de dépassement de la religion.
Mmh.
On allait vers quelque chose de beaucoup plus universel, qui appelle à la conscience personnelle de chacun. C'est une sorte de spiritualité individuelle qui peut se partager avec d'autres, qui ne supprime pas l'idée de communauté, mais qui n'était pas la création d'une nouvelle religion.
Ouais. Frédéric Lenoir, dernière chose concernant le Christ et l'histoire, de manière tangible. Les historiens s'accordent à dire en règle générale que la naissance du Christ, ce serait aux alentours de moins 4, à peu près. Donc avant sa naissance, voilà.
Oui, il est né 4 ans avant lui.
Oui, voilà. Et qu'il serait mort non pas à l'âge de 33 ans, mais 35-36 ans à peu près.
Ben, c'est-à-dire que ça décale les choses. Parce qu'effectivement, on pensait qu'il était né en l'an 0 et qu'il était mort à 33 ans. Donc on se dit, ben voilà, il est donc l'an 33. Et sauf qu'on s'aperçoit que il est effectivement bien mort, très probablement en l'an 33. Parce qu'on retrouve la fête de Pâques avec donc il y a toutes sortes de travaux astronomiques même qui permettent de calculer à quelle fête de Pâques il est mort.
Oui.
Par contre, on sait avec certitude aujourd'hui historiquement qu'il est né au moins 4 ans avant l'an 0. Et pourquoi ? Parce que le calcul a été fait au 6e siècle par un moine qui s'appelle Denis le Petit, qui a, vous savez que ça c'est d'ailleurs quelque chose qu'on ne sait pas du tout. Dans l'Antiquité, il n'y avait pas de datation universelle. Donc on calculait le temps à partir, dans chaque culture, dans chaque région du monde, à partir de l'empereur régnant. Donc on est en l'an 12 de César, en l'an 15 d'Hérode, donc on calcule toujours le temps par rapport à l'empereur, au souverain. Et il n'y avait que les juifs qui avaient établi une chronologie par rapport à ce qui était écrit dans la Bible comme la naissance du monde. Et au 6e siècle, il y a un pape qui a demandé à un moine de faire la même chose que les juifs, c'est-à-dire on va calculer le temps à partir de la naissance de Jésus-Christ.
Oui.
Et donc on va faire un calendrier universel, et on va essayer de calculer. Il a fait une erreur, ce moine, et il s'est trompé d'environ 4 ans, et on en a la certitude parce que Jésus, il nous est dit à la fois dans des sources évangéliques et à la fois dans des sources historiques chez des historiens non chrétiens que Jésus est né sous Hérode. Hérode le Grand, qui effectivement est un roi juif qui a bien existé, mais Hérode est mort en moins 4 avant Jésus-Christ. Donc Jésus est forcément né en moins 5 ou moins 6 avant Jésus-Christ.
Ouais.
Donc il est né avant la mort d'Hérode. Et du coup, ben, on s'aperçoit qu'il faut décaler de quelques années le calendrier chrétien, ce qui fait qu'effectivement, c'est pas l'an 2000 qu'on a fêté. On est décalé de plusieurs années. Et ce qui est très intéressant, c'est que les Éthiopiens, qui sont des gens, donc des Africains qui ont été convertis très très tôt au christianisme, hein, mm-hmm. ce qu'on appelle les Coptes,
ouais.
Dès les premiers siècles, et ben eux, ils avaient calculé la bonne date de naissance. Et donc, ils ont 4 ans de décalage, ils ont 6 ans de décalage. Pour eux, Jésus est né en moins 6 avant Jésus-Christ. Et donc, aujourd'hui, ils sont beaucoup plus, si vous voulez, en vérité, par rapport à la chronologie réelle de l'histoire du christianisme.
Ouais. Alors, maintenant, on va, je dirais, s'attaquer à des dogmes fondamentaux, qui sont maintenant des dogmes fondamentaux de l'Église, et voir un petit peu comment ils ont été distordus comme ça au fil du temps. On va commencer par le plus simple, le plus important, c'est l'égalité absolue entre tous les hommes, quel que soit leur sexe, leur race, leur position sociale. Et ça, c'était une base fondamentale du discours de Jésus.
Alors, ça, c'est la base fondamentale. C'est-à-dire, c'est ce qui est le plus prégnant dans les évangiles. C'est que on était dans un monde antique qui était, on va dire, gouverné essentiellement par la pensée gréco-romaine.
Oui.
Et la pensée gréco-romaine, c'est une pensée aristocratique. C'est-à-dire qu'il y a, il y avait des démocraties qui existaient, mais dans les démocraties, tout le monde n'était pas égal. C'est-à-dire, vous aviez les citoyens qui pouvaient voter, et puis vous avez ceux qui n'étaient même pas considérés comme des citoyens, les esclaves, les enfants et les femmes. Voilà, donc c'est très simple. Donc vous aviez que les hommes qui étaient ni esclaves ni étrangers, les étrangers n'en parlons pas. Bon, donc vraiment, c'est très limité, si vous voulez, comme type de notion d'égalité et de démocratie.
Oui.
Et vous aviez par ailleurs le monde juif, qui lui considère que le juif, à l'époque du Christ, est supérieur aux autres hommes, et que donc, il y a une distinction à faire entre les juifs et les non-juifs.
Mmh.
Jésus arrive là-dedans, au carrefour de ce monde juif et de ce monde gréco-romain, et il va casser tout ça, en disant, il n'y a plus de différence, il n'y a pas de différence au regard de Dieu, entre un homme et une femme, entre un enfant et un adulte, entre un juif et un non-juif, entre un citoyen de la cité et un étranger, il n'y a plus aucune différence, tous les hommes, toutes les femmes, tous les êtres humains sont égaux en dignité devant Dieu. Et là, ça change tout. Ça veut dire du coup qu'on ne peut plus établir dans une société des castes, comme ça existe d'ailleurs aujourd'hui encore en Inde.
Oui.
On
ne
peut plus établir des différences fondamentales qui fait que certains individus auraient des droits et d'autres n'en auraient pas. Donc c'est la première grande révolution de l'histoire de la pensée qui va nous introduire 1500 ans plus tard dans la modernité occidentale.
Mmh.
Il aura fallu 1500 ans pour digérer ce message, tellement il était révolutionnaire.
Oui, mais en ce qui concerne la femme, par exemple, très rapidement, avec certains des apôtres, cette notion d'égalité absolue a commencé à être battue en brèche.
Tout à fait. Alors, c'est vrai que Jésus a choqué énormément ses contemporains parce qu'il était entouré de femmes. Donc, parmi ses disciples, il y avait de nombreuses femmes, à peu près autant que d'hommes, que les femmes jouaient un rôle important dans son entourage, que c'est à une femme, Marie-Madeleine, qui va apparaître selon les évangiles, pour la première fois après sa mort et sa résurrection, pour dire « va annoncer aux autres que je suis ressuscité ». Donc, c'est ce qui est quand même le dogme fondamental, si vous voulez, l'élément clé constitutif de la foi chrétienne, la résurrection du Christ. C'est une femme qui en est le messager, d'une certaine manière, l'apôtre. Et puis, très vite, dans les premières communautés chrétiennes, les femmes vont être mises au second plan. Et notamment saint Paul, qui va jouer un rôle déterminant dans la création de la religion chrétienne, saint Paul va dire dans plusieurs textes que les femmes ne peuvent pas avoir les mêmes responsabilités que les hommes, qu'elles doivent se taire dans les assemblées, qu'elles doivent se couvrir les cheveux. Enfin, on arrive, si vous voulez, à une sorte de reprise en main par les hommes de ce qui était finalement les sociétés patriarcales anciennes qu'on retrouve partout dans le monde gréco-romain, que les femmes ne peuvent pas avoir, tant sur le plan théologique que sur le plan du pouvoir, les mêmes responsabilités que les hommes. Et donc, effectivement, c'est quelque chose qui, pour dire les choses franchement, dure encore. C'est-à-dire qu'on n'est pas sorti aujourd'hui de cette pensée-là, que ce soit dans le monde juif, dans le monde musulman, dans le monde chrétien. Ce qui domine encore dans les institutions, c'est que les hommes sont faits pour la réflexion et le gouvernement, et les femmes sont faites pour prier et les œuvres de charité. C'est à peu près cette distinction-là qui a été établie.
Oui, oui.
Alors que Jésus montrait que, pas du tout, les femmes pouvaient avoir, si vous voulez, en tout cas, il n'y a pas de différence ontologique entre l'homme et la femme, et que la seule différence qui existe, c'est une différence sociologique. C'est-à-dire que dans une société donnée, dans une mentalité donnée, on n'accorde pas, effectivement, les mêmes droits aux hommes et aux femmes. Et par son discours et par son message, il sape le fondement de cette pensée sociologique. En ce sens-là, c'est le premier moderne sur la conception de l'égalité de l'homme et de la femme.
Oui. On parlera de saint Paul un petit peu plus tard, des rapports dans la fondation de l'Église primitive entre Pierre et Paul, qui n'étaient pas excellent. Et avec Jacques non plus d'ailleurs. En ce qui concerne saint Paul, il n'a pas connu le Christ de son vivant.
Pas du tout, et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est pas un disciple du Christ, c'est quelqu'un qui était un juif très savant.
C'était un zélote ?
C'était, alors on sait pas trop, il y a des théories qui disent que c'était un zélote et un homme politique qui était en faveur de la libération d'Israël, du joug des Romains.
Mmh.
Vous aviez trois grandes, pour comprendre un petit peu le milieu dans lequel est Jésus, vous aviez chez les juifs les Sadducéens, qui étaient un groupe qui s'occupait du temple de Jérusalem et qui faisait vivre le temple, c'était les grands prêtres. Vous aviez les pharisiens, qui étaient plutôt les docteurs de la loi, les théologiens, les gens qui réfléchissent. Vous aviez les zélotes, qui étaient plutôt des agitateurs politiques, c'est-à-dire des gens qui, au nom du judaïsme, voulaient se battre contre les Romains. Et puis vous aviez les esséniens, qui étaient des ermites qui allaient vivre dans la sève et dans la solitude. C'est ceux qui ont vécu à Qumran, dont on a retrouvé les manuscrits. Alors, Jésus, lui, dialogue avec tout le monde, mais il ne fait partie, on voit bien, d'aucun de ces groupes. Il est totalement libre par rapport à ces groupes. Saint Paul, lui, était certainement un pharisien. C'est-à-dire, c'était quelqu'un qui était un intellectuel. Mais un pharisien qui était peut-être aussi un zélote. Donc ça, il y a des thèses là-dessus qui sont un peu contradictoires. En tout cas, c'était un homme violent. C'était un homme qui avait beaucoup d'agressivité en lui, et à tel point qu'il commençait par persécuter très violemment les chrétiens. Il nous est raconté dans le livre des Actes des Apôtres, qui est un récit très, très étonnant, qui raconte les débuts de l'Église primitive, et dont vraiment l'authenticité semble très fiable, qui nous raconte que Paul, avant de se convertir au christianisme, et ben par exemple, c'est lui qui a organisé le martyr d'Étienne.
Oui, en le lapidant.
En le lapidant, en le faisant lapider, tout simplement, parce que c'était un juif très, très zélé, on peut dire, qui ne supportait pas l'idée de la réforme qu'avait introduit Jésus dans la religion juive. Et puis un jour, il nous est raconté dans les Actes des Apôtres que Paul va à Damas pour persécuter des chrétiens et pour les faire mettre en prison, et il a une révélation. Il tombe de cheval et il perd la vue et il entend une voix qui lui dit « Paul, Paul, pourquoi ?» Enfin, Saul, Saul, parce que c'était son nom juif. « Pourquoi me persécutes-tu » Voilà. « Pourquoi me persécutes-tu » Il lui dit « Mais qui es-tu » Et il lui dit « Je suis Jésus que tu persécutes. » Et à ce moment-là, Paul va raconter cette conversion, ça va totalement le transformer et il va devenir un chrétien ultra zélé. C'est-à-dire, il va plus persécuter les chrétiens, mais il va plutôt se retourner contre les juifs, expliquer qu'ils n'ont rien compris, que le christianisme c'est une révolution totale, et ça va devenir un des apôtres qui va convertir le plus de gens, et on peut dire que l'Église est née véritablement avec l'action extraordinaire missionnaire de saint Paul, mais avec tous les excès que ça a accompagné, parce que Paul était quelqu'un d'excessif, c'était quelqu'un d'entier, d'absolu, et qui a mis toute sa violence intérieure, toute sa fougue au service de la foi chrétienne, mais en lui donnant aussi une connotation qui n'était peut-être pas tout à fait celle de Jésus sur certains points.
Déjà, on sent un degré ou deux de différence, et après, avec le temps, ces deux degrés au départ, évidemment, amènent à des différences
énormément. Tout évolue un peu différemment, exactement.
Frédéric Lenoir, une pause dans Les Aventuriers de l'Étrange sur Sud Radio, et nous allons continuer comme ça à découvrir votre progression à travers le livre dont je rappelle le titre, votre livre, Le Christ philosophe, aux éditions Plomb.
Les aventuriers de l'étrange, Louis Bénédit, sur Sud Radio.
Les aventuriers de l'étrange, ce soir sur Sud Radio avec mon invité Frédéric Lenoir, qui est directeur de publication du Monde des Religions, historien des religions, philosophe. D'ailleurs, à signaler quand même un peu de publicité pour le Monde des Religions, il y a un très très bon document, non pas un document, mais un dossier. Sur le christianisme primitif. Hein.
Voilà, les premiers chrétiens, comment vivaient les premiers chrétiens en longtemps.
Donc, se reporter à ce dossier et également à votre livre le Christ philosophe paru aux éditions Plomb pour continuer à découvrir la distorsion des entre le discours de Jésus et ce qui en est maintenant de l'Église chrétienne ou l'Église catholique romaine pour parler de la portion la plus importante de la chrétienté, la liberté de conscience, ça c'était vraiment, à la base, quelque chose de fondamental également dans le discours de Jésus.
Oui, tout à fait. C'est une des choses qui m'est apparue, moi, le plus importante dans la révolution aussi des évangiles. Il y a l'égale dignité de tous les êtres humains, on en a parlé. Il y a la liberté de conscience. Et il y a une parole que je trouve tellement forte et tellement extraordinaire que je l'ai longuement commentée dans l'épilogue du livre, c'est la rencontre de Jésus avec la femme samaritaine. Je crois que pour faire comprendre ce que c'est que la liberté de conscience pour le Christ, j'ai envie d'en dire un petit mot, si vous voulez bien.
Avec plaisir.
C'est un passage de l'évangile de Saint Jean, chapitre 4, où Jean nous raconte, Jésus marche avec ses disciples, il traverse la Samarie, et la Samarie c'est une petite région, une petite enclave dans le monde juif de l'époque, où il y a des hérétiques, on va dire, qui sont les Samaritains. Les Samaritains, ce sont des gens qui ne pensent pas comme les Juifs, qui sont d'origine juive, mais qui ne sont pas d'accord avec la grande majorité des Juifs, qui considèrent que le temple de Jérusalem est le lieu où on doit rendre un culte à Dieu. Et les Samaritains, eux, pensent que le lieu où on doit rendre un culte à Dieu, c'est la montagne de Samarie. Donc ils ont fait un temple sur la montagne, et ils pensent que c'est pas à Jérusalem, mais sur la montagne de Samarie, qu'on doit rendre un culte au vrai Dieu. Et ils sont du coup détestés des Juifs, et tous les évangiles ont traversé de phrases très violentes contre eux, où on montre que les Juifs détestent les Samaritains détestent les Juifs. Donc on est dans l'histoire classique des religions. Et Jésus s'arrête en Samarie, il a soif, ses disciples partent acheter des provisions, il reste seul en pleine chaleur, il est midi, et une femme arrive, une Samaritaine, et il va s'engager un dialogue assez extraordinaire entre cette femme et Jésus, et cette femme est traversée par une grande question, elle lui dit « Mais où faut-il adorer ? Est-ce qu'il faut adorer Dieu à Jérusalem, comme le disent les Juifs, ou est-ce qu'il faut adorer sur cette montagne, comme le disent les Samaritains ?» Et Jésus a une phrase que je trouve tout à fait extraordinaire. Il lui dit « Crois-moi, femme, l'heure vient où ce n'est ni à Jérusalem, ni sur la montagne qu'il faut adorer, mais il faut adorer en esprit et en vérité, car Dieu est esprit. » Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que Jésus nous dit « Peu importe que vous alliez vous fassiez partie de telle religion, que vous soyez juif, chrétien, musulman, bouddhiste, que vous alliez adorer dans une église, dans une synagogue, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est que vous adoriez dans votre conscience, à l'intérieur de vous. Vous alliez à l'intérieur de vous-même. Dieu étant esprit, il n'est pas lié à une partie de la terre, il n'est pas lié à un espace sacré, il n'est pas lié à telle ou telle culture. Il est au-delà de toutes les cultures et chaque homme peut retrouver la relation à Dieu, c'est-à-dire à l'absolu, dans son cœur, dans son esprit. Et ce qui compte, c'est d'adorer en esprit et en vérité, c'est-à-dire de suivre sa conscience selon la vérité. Ce qui veut dire qu'il renvoie l'individu à sa propre conscience. Et ce qui compte, c'est la vérité qu'on a dans notre vie par rapport à ce que nous dicte notre conscience et qui, pour Jésus, est éclairée directement par Dieu. Et donc, c'est quelque chose qui sape les religions. C'est-à-dire qu'à partir d'une telle parole, on peut plus dire « la vérité est à Rome, la vérité est à Jérusalem, la religion vraie, c'est celle-là ». Donc la Samaritaine nous pose cette question « quelle est la religion vraie ?» Et Jésus lui répond « peu importe, il y a peut-être des religions qui sont plus importantes que d'autres, qui vont plus loin dans la... Mais l'essentiel, c'est d'aller à l'intérieur de son cœur. La religion vraie, on la trouve à l'intérieur de soi. Et là, c'est une parole extraordinaire, qui n'a pas pu être mise en acte ensuite par l'Église, parce qu'évidemment, ce serait aller contre toute institution d'une parole pareille. Et donc, Jésus fonde la liberté de conscience, c'est-à-dire la liberté de croyance au-delà des groupes humains. C'est que chaque individu est responsable de sa foi. Et à partir de là, évidemment, cette parole ne va pas être mise en acte.
Oui, mais à ce moment-là, je veux dire, cette idée que Jésus apporte est totalement novatrice par rapport à l'époque et dangereusement révolutionnaire.
Tout à fait. Et c'est vrai que ce message est tellement révolutionnaire qu'il n'a pas pu être entendu d'une certaine manière par ses contemporains. Et très vite... ces disciples qui sont devenus l'Église a fait ce qu'aurait fait n'importe quelle institution, c'est-à-dire a considéré que la vérité appartenait à une tradition, à un groupe, à une institution qui devait dire aux gens ce qu'ils devaient croire et pas croire. Et finalement, elle a contredit par sa pratique, par la naissance du dogme, par la naissance plus tard de l'Inquisition, elle a contredit ce qui était ce message fondamental du Christ. Ce qui compte, c'est véritablement la liberté de croyance de chaque individu.
Il y a eu différentes grandes étapes dans la distorsion de ce message à partir, on va dire, de l'an zéro jusqu'à maintenant, en 2007. Vous considérez que les grandes étapes ont été lesquelles ?
Bon, on peut considérer qu'il y a une première rupture juste après la mort de Jésus. C'est-à-dire que le message des évangiles, c'est déjà extraordinaire que des apôtres qui n'ont pas forcément tout compris l'aient quand même mis par écrit. Et on a des paroles dans les évangiles qui n'ont jamais été mises en acte, n'ont jamais été comprises, si vous voulez, par ceux qui ont suivi. C'est-à-dire qu'elles ont été recopiées fidèlement, parce qu'on a recopié les paroles de Jésus tellement elles ont marqué les gens, mais elles n'ont pas été comprises. Donc la première rupture, c'est sitôt après la mort de Jésus, c'est l'impossibilité, si vous voulez, de suivre son message tellement, sur certains points, il est révolutionnaire. Notamment, on l'a vu, l'égalité de l'homme et de la femme.
Oui.
Dès que Saint-Paul arrive, c'est fini, on n'est plus dans la même conception. Donc, première rupture, elle est sitôt après la mort du Christ. Sur certains points, on ne peut pas le suivre, si vous voulez. Première rupture. Mais, néanmoins, un certain nombre de paroles, comme le fait, par exemple, d'essayer de distribuer ses biens aux pauvres, que l'argent est quelque chose qui peut éloigner de la religion vraie, parce qu'on considère que ce qui est important, c'est de partager, c'est la non-violence, le fait de ne pas répondre à la violence par la violence. Il y a tout un certain nombre de messages qui ont été entendus. Et donc, l'Église primitive va quand même mettre en œuvre, mettre en acte un certain nombre de préceptes évangéliques qui vont d'ailleurs permettre de se développer. Elle va être à la fois persécutée par les autorités romaines parce qu'elle refuse de rendre un culte à l'empereur, hein, et puis en même temps, ils vont avoir de plus en plus de succès parce qu'il va y avoir des œuvres de solidarité, ils vont aider les pauvres, etc. Et l'Église va commencer à se développer. Et la deuxième rupture, elle intervient au IVe siècle, au moment où l'Église devient majoritaire. C'est-à-dire qu'elle était une minorité persécutée, elle va devenir une majorité persécutrice. C'est-à-dire du jour, en quelques décennies, sans qu'elle ait rien fait pour ça, puisque Constantin va faire de l'Église romaine le centre voilà de l'Empire, à partir de ce moment-là, le pape, d'ailleurs, était quelqu'un qui a été très souvent persécuté, il y a eu plusieurs papes morts martyrs, etc., ça va devenir une sorte d'empereur bis. Et à partir de ce moment-là, l'Église va effectivement basculer vers un désir de domination de la société. Elle continuera de développer des œuvres caritatives, ça faut vraiment le reconnaître, et en même temps, elle interdira ceux qui pensent pas comme elle, les persécutera et les païens vont être persécutés. Et donc, c'est la deuxième rupture dans laquelle on peut dire qu'il y a un basculement, l'Église perd de plus en plus ses valeurs évangéliques pour se consacrer finalement à une sorte de gestion de la société selon les valeurs, les croyances chrétiennes et le dogme catholique. Mmh. Et puis ensuite, on peut dire qu'il y a un troisième moment, c'est lorsque l'Église va devenir tellement puissante qu'elle va même gouverner les empereurs. C'est-à-dire qu'elle va être, c'est ce qu'on appelle la chrétienté, c'est grosso modo, ça va se passer autour à partir de Charlemagne, des Carolingiens, où c'est véritablement, si vous voulez, l'Église qui fera la pluie et le beau temps, et qui les empereurs iront demander pardon au pape. Vous voyez, on est sur une période dans laquelle elle va avoir une puissance très très grande, aux alentours de l'an 800, et cela jusqu'au à peu près 12e, 13e siècle, et puis, progressivement, et là c'est la dernière étape, les rois, les empereurs vont réussir à reprendre le pouvoir par rapport à l'importance qu'auront eu les papes, et l'Église va perdre progressivement, jusqu'à nos jours, tout son pouvoir temporel à partir de la fin du Moyen-Âge et du début de la Renaissance.
Mais Frédéric Lenoir, l'Église, parce que là on parle de l'Église catholique romaine, il y a eu d'autres églises qui se sont créées entre-temps, je pense aux orthodoxes, je pense aux coptes, je pense au protestantisme, bien entendu, mais l'Église la plus majoritaire, catholique romaine, a eu plusieurs fois la possibilité de surfer sur la vague de la modernité et d'aller dans le sens de la vie, ce qu'elle a refusé à chaque fois, se mettant au contraire, se dressant comme une barrière.
Eh bien, on l'a vu par exemple avec les droits de l'homme. Lorsque la révolution française et américaine, anglaise, enfin toutes les révolutions à la fin du XVIIIe siècle ont prôné, si vous voulez, des droits, des Bill of Rights, des droits humains fondamentaux qu'il faut qu'on respecte la pensée de chacun, la liberté de conscience, la liberté de tolérance, la liberté d'expression, l'égalité des hommes et des femmes. Lorsque tous ces droits de l'homme ont été publiés, l'Église s'y est totalement opposée, parce qu'elle considérait qu'elle seule était en droit de décider ce qui était bien, ce qui était mal, mais que les hommes n'avaient pas à prendre cette décision-là. Alors que le message lui-même des droits de l'homme, c'est ce que je montre dans ce livre, est profondément d'inspiration évangélique. C'est-à-dire que ceux qui ont rédigé les droits de l'homme se sont directement inspirés des évangiles. Et la notion d'égalité, liberté, égalité, fraternité, qui est la devise républicaine française, ce sont trois mots clés qui sont au cœur du message évangélique. Donc, mais simplement, on l'a laïcisé, c'est-à-dire qu'on l'a sorti du contexte religieux, clérical, on pourrait dire, pour en faire des valeurs universelles auxquelles adhère tout le monde, quelle que soit sa religion. Et l'Église n'a pas accepté ça, parce qu'elle s'est dit, à partir du moment où on va laïciser la pensée chrétienne, eh ben ça va nous échapper, c'est-à-dire le pouvoir va nous échapper, on ne pourra plus contrôler les choses. Et c'est ce que je trouve vraiment fascinant dans l'histoire de l'Occident, c'est qu'au fond, les valeurs les plus profondes de l'Évangile se sont développées en dehors de l'Église, et aujourd'hui nous vivons tous dans des valeurs qui sont chrétiennes, sans même qu'elles aient l'étiquette chrétienne, ça n'a aucune importance, et que l'Église a profondément combattu pendant des siècles. Sauf qu'aujourd'hui, l'Église est devenue beaucoup moins puissante, et que vous avez 90% du clergé, des prêtres, des évêques et des laïcs engagés dans l'Église qui admettent parfaitement les droits de l'homme et qui sont, si vous voulez, se sont convertis aux valeurs modernes. Mmh. Mais ça s'est fait dans un premier temps avec une résistance extraordinaire. Et c'est pour ça que, d'une certaine manière, on a en tête un peu l'idée que le christianisme, c'est vraiment quelque chose de terrible contre lequel il a fallu se battre dans un univers laïque pour essayer de s'émanciper, de libérer la femme, de libérer les individus du groupe. Et c'est vrai historiquement, ça s'est passé comme ça. Mais ce qu'on oublie de voir, parce qu'on ne connaît pas tout à fait l'histoire de la pensée, c'est qu'en même temps, ces valeurs fondamentales, elles sont pas venues de nulle part. Et moi, la grande question que je pose dans ce livre, c'est est-ce que la modernité, les droits de l'homme, la démocratie, pourquoi est-ce que ce n'est pas né en Chine ? Pourquoi pourquoi est-ce que ce n'est pas né en Inde? Pourquoi est-ce que ce n'est pas né dans l'Empire ottoman? Pourquoi est-ce que c'est né en Occident? Et la réponse que j'essaie d'expliciter, c'est parce que l'Occident était imprégné des valeurs évangéliques qui ont permis, si vous voulez, aux individus de conscientiser toutes ces notions de liberté de l'individu, d'égalité de tous les êtres humains, et que ces notions-là se sont émancipées de la pensée religieuse pour devenir une pensée laïque que chacun peut s'approprier, quelle que soit sa religion, mais la source, elle est dans l'Évangile.
Mmh. Donc, il est absolument incontestable que nos racines sont profondément chrétiennes.
Ah, mais oui.
Le monde occidental puise ses racines dans le creuset chrétien.
Alors, évidemment, je crois vraiment que d'ailleurs, n'importe quel historien le reconnaît, mais après, moi, je n'aime pas le mot racine, parce que le mot racine est ambigu. La racine, c'est un peu ce qui est à la source, si vous voulez.
Ouais.
Or, le christianisme n'est pas à la source de tout ça. À la source du christianisme, vous avez quand même la pensée grecque, le droit romain, la foi juive, qui sont vraiment les sources auxquelles le christianisme s'est abreuvé pour faire naître une synthèse nouvelle, mmh, avec des éléments totalement révolutionnaires, comme je l'ai expliqué, sur certains points. Et donc le christianisme a à la fois été la synthèse de quelque chose de plus ancien et apporté des éléments nouveaux. Donc moi, plutôt que de dire qu'il y a des racines chrétiennes à l'Occident, je préfère de dire qu'il y a des racines juives, grecques, mésopotamiennes, celtes, romaines à l'Occident, et que le christianisme a été la matrice de l'Occident. C'est-à-dire qu'a réuni toutes ces racines, a apporté des éléments nouveaux et a fait naître le monde occidental. Donc c'est vraiment la matrice, on a accouché, le christianisme a accouché du monde moderne, du monde occidental. Mais le grand paradoxe, c'est que cet accouchement s'est fait justement dans une opposition à l'institution catholique. Mmh. Et donc c'est ça qui brouille complètement les choses, hein, les pistes, et qu'on n'arrive pas à y voir clair dans toute cette histoire de l'Occident. C'est qu'en fait, l'Occident s'est émancipé de sa matrice, s'est retourné contre sa matrice pour faire naître le monde moderne, tout en reprenant ses valeurs.
Ouais. Frédéric Lenoir, une pause à nouveau et on se retrouve dans quelques instants parce que il y a un sujet que j'aimerais aborder, auquel vous consacrez pas mal de pages dans votre livre, c'est ce concept selon lequel il faut souffrir et le Christ est mort sur la croix en souffrant pour rejoindre Dieu. Et ça, vous expliquez, vous allez le dire tout à l'heure, on va en parler avec un éclairage tout à fait nouveau et qui semble à mon avis, plus juste. Vous restez avec nous dans Les Aventuriers de l'Étrange sur Sud Radio. On se retrouve dans quelques instants.
Les Aventuriers de l'Étrange. Louis Bénédit sur Sud Radio.
Frédéric Lenoir, directeur de publication du Monde des Religions, historien des religions, philosophe, est mon invité ce soir pour le livre qu'il vient de publier aux éditions Plon, Le Christ philosophe. Frédéric Lenoir, je l'ai esquissé tout à l'heure, le thème de la souffrance pour conquérir son paradis, ça n'est absolument pas, au départ, le message du Christ.
Et non, effectivement, c'est une grosse déviation du message du Christ qui fait que des générations entières de chrétiens ont été élevé, si vous voulez, au catéchisme, c'est avec cette idée que il fallait souffrir, hein, pour gagner son paradis, que
plus on
souffrait mieux. Voilà, et ça l'est encore beaucoup moins, hein, faut dire aujourd'hui. Il y a quand même, mais ça l'est dans le catéchisme. Si vous lisez le catéchisme de l'Église catholique, c'est encore ça. Vous avez encore un certain nombre de prêtres qui enseignent ça, même si, faut le dire, le christianisme a beaucoup évolué depuis 30 ans, depuis le Concile Vatican II notamment, mm-hmm, et que ce discours-là, on l'entend de moins en moins. Mais ça a été pendant 2000 ans. Effectivement, une tonalité dominante de la catéchèse catholique, la souffrance fait partie, si vous voulez, des éléments indispensables pour gagner le ciel, voilà, pour dire les choses simplement.
Ouais.
Or, c'est pas du tout ce que nous montre et ce que nous dit le Christ dans les évangiles. C'est que la souffrance, si on regarde bien la vie du Christ, le fait qu'il soit mort de manière violente, il a souffert, il a terriblement souffert à sa fin, ce n'est pas quelque chose qu'il a voulu ou recherché. C'est quelque chose qui s'est imposé à lui malgré lui. Et il dit très bien, il nous a très bien montré dans les évangiles, qu'il ne souhaitait pas du tout vivre cette passion, vivre cette souffrance. Il dit à Dieu, éloigne de moi cette coupe, si je peux éviter. Mais en même temps, il ne peut pas l'éviter. Et pourquoi il ne peut pas l'éviter? Pour des raisons politiques, pas pour des raisons théologiques. Il n'avait pas besoin de souffrir, entre guillemets, pour délivrer son message. Il n'avait pas besoin de souffrir pour transmettre ce qu'il avait à faire. Par contre, son message était insupportable pour les autorités religieuses de son époque, parce qu'il contestait complètement la nécessité de la religion. Il disait qu'il n'y avait pas besoin d'autorité religieuse pour aller directement, pour rencontrer, mmh, Dieu et pour avoir une vie spirituelle. Donc, il était en contradiction, si vous voulez, très forte avec les autorités religieuses. Et donc, il y avait deux solutions. Il suscitait tellement, et puis il n'y avait que deux solutions. Ou alors il se taisait, ou il partait en exil, ou alors il allait être condamné. Et donc, lorsqu'il est monté à Jérusalem pour la dernière fois, les évangiles le montrent très bien, il dit à ses disciples, je vais mourir, je vais à Jérusalem, et ce que je vais dire ne va pas être accepté, je vais mourir. Et en même temps, il l'accepte, c'est-à-dire qu'il assume son destin, qui est qu'il y a des paroles qui sont tellement fortes qu'elles sont inaudibles et que ça va créer à l'individu qui les prononce, eh ben, effectivement, la possibilité de mourir. C'est ce qui s'est passé avec Socrate, hein. Il savait que, en disant certaines choses, il allait véritablement trop loin dans la critique de la religion et qu'il allait périr. Et puis, vous avez tout au long de l'histoire de l'humanité, des gens qui sont morts martyrs, hein, pour une cause, parce qu'ils disaient, ils défendaient une vérité qui ne voulait pas se taire. Mmh. Et ça, c'est pour ça que le Christ est mort. Donc, la souffrance du Christ, elle est simplement liée au fait qu'il a été jusqu'au bout dans sa vie de la vérité qu'il professait. Il a été cohérent jusqu'au bout, il n'a pas été lâche, il a été jusqu'au bout. Et cette souffrance n'était pas indispensable du tout. C'est-à-dire qu'il n'a pas voulu. Alors le problème ensuite, c'est que dès les premiers siècles, on a créé dans l'Église une théologie du martyr, de la souffrance, dans laquelle il faut souffrir pour ressembler au Christ. Donc on va rechercher la souffrance. On va chercher à se flageller, on va chercher à ne pas avoir de plaisir terrestre, on va jeûner, on va multiplier les pénitences pour ressembler au Christ. Mais c'est complètement absurde. On n'est pas du tout dans une nécessité. Par contre, ce que veut montrer le Christ, c'est que si nous arrive une souffrance qu'on ne peut pas éviter, eh ben cette souffrance peut nous aider à grandir. C'est-à-dire que si vous arrive une épreuve, si on a une maladie grave, on peut soit être écrasé par cette souffrance, par cette épreuve, un deuil, une maladie, soit on peut essayer de comprendre que cette épreuve peut nous aider à aller chercher à l'intérieur de nous ou auprès de Dieu ou quel que soit le contexte, des ressources qu'on ne soupçonnait pas. Mmh. Et donc une épreuve peut écraser et une épreuve peut faire grandir. Ça oui, c'est un message chrétien. Mais dire qu'il faut aller rechercher la souffrance, c'est une absurdité.
Mais Frédéric Lenoir, c'est quand même fondamental parce que le concept de la souffrance ou un peu plus loin de la culpabilité, c'est quand même fondamental dans notre société, on le dit bien, judéo-chrétienne.
Ah bah, tout à fait. Et c'est quelque chose qui a marqué en profondeur toutes nos consciences et qui est très différente du monde asiatique, par exemple. Hein.
Ouais,
l'idée de culpabilité n'existe pas dans le monde asiatique. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur le bouddhisme. C'est une idée qui n'existe pas. Et c'est vrai qu'on a lancé l'enseignement de l'Église, a fait des dégâts considérables dans les consciences, en mettant une sorte de scrupule, de culpabilité, de notion de d'être en permanence pécheur, fautif, etc., par rapport à la sexualité notamment, oui. Alors que c'est totalement absent des évangiles. C'est-à-dire cette notion de si vous voulez, du pécheur qui en permanence traque la faute, la mauvaise conscience, etc., c'est quelque chose de totalement absent. Pourquoi ? Parce que dans le christianisme, et d'ailleurs il y a des passages extraordinaires des évangiles à ce sujet-là, le problème de la morale, c'est-à-dire d'accomplir bien la loi ou pas, n'est pas central. Le Christ montre que ce qui compte, c'est l'amour. Et que, peu importe, on peut errer, on peut chuter, on peut faire des choses qui sont pas bien, etc. On peut toujours essayer de progresser pour aimer plus, et c'est ça qui compte. Et il y a une scène que je trouve extraordinairement éclairante à ce sujet-là dans les évangiles, c'est la femme adultère. C'est que vous avez une femme qui est surprise en flagrant délit d'adultère, la loi religieuse condamne à mort l'adultère de la femme, hein, je précise, parce que l'homme, il ne sera jamais condamné. Donc là, on voit déjà les conceptions qu'il y a derrière. Donc la femme qui est prise en flagrant d'adultère doit être tuée, doit être lapidée. Et les juifs de l'époque, les autorités juives de l'époque qui veulent piéger Jésus, qui veulent montrer qu'ils s'opposent à la loi de Moïse, vont prendre une femme prise en flagrant délit d'adultère, l'amener devant Jésus en disant, voilà, Moïse nous dit qu'il faut la lapider, toi que nous dis-tu ? Et Jésus a cette phrase pleine d'humour et de force, qui a traversé les siècles, où il dit que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Et à ce moment-là, l'Évangile nous dit, et les hommes commencèrent à s'éloigner les uns après les autres, en commençant par les plus âgés, et à la fin, Jésus se retrouve seul avec la femme, et lui dit, va désormais, moi je ne te condamne pas. Et donc, il ne condamne pas la faute, l'erreur, et si tout simplement l'attitude d'une femme qui a mené sa vie comme elle l'entendait, ce n'est pas son problème. Il est là toujours, et on le voit dans chacun des passages de l'Évangile, pour dire que l'essentiel n'est pas de suivre la loi, mais que l'essentiel, c'est d'agir en esprit, en vérité, c'est-à-dire d'avoir un comportement qu'on estime le plus juste, le plus droit possible, en fonction de ce qui fonde nos convictions intimes et pas l'adoption d'une règle extérieure.
Mais Frédéric Lenoir, on le comprend de manière historique, politique, philosophique, en lisant votre livre, mais quand on le referme, on s'est dit, mais mon Dieu, c'est le cas de le dire, on ne peut rien confier à l'homme. Dès qu'il le prend, dès qu'il l'a entre voilà. les mains, il, excusez-moi cette expression triviale, mais il le fait partir en vrille.
Mais c'est vrai, mais on est tous pareils. C'est-à-dire que, avec la meilleure intention du monde, on retombe toujours dans ce qui sont les travers éternels de l'humanité, c'est-à-dire le besoin de domination, la peur, et voilà, on est pris par les passions humaines, on est pris par un certain nombre de passions qui font que, effectivement, on a du mal à respecter les autres, on a du mal à faire un enseignement, à suivre un enseignement comme celui de l'Évangile qui est très exigeant finalement, parce que même si nous ne nous oblige pas, c'est pas un message qui oblige. C'est un message qui donne une direction. Et cette direction qui est claire, parce que l'évangile c'est pas une borne, c'est un phare qui éclaire loin, c'est très exigeant. Le respect de soi et le respect d'autrui. L'amour de soi et l'amour de l'autre. C'est ce qui est le plus exigeant. C'est ce qui est le plus difficile. Et en même temps, il n'y a pas de règles pour y arriver. Il n'y a pas de recettes. C'est quelque chose où il faut être en permanence vigilant, attentif. Et c'est quelque chose de très difficile à vivre. Donc on a du mal à vivre et inévitablement, que ce soit le pape, un curé, vous ou moi, si on a une responsabilité par rapport à un tel message, on ne sera jamais à la hauteur. On va toujours le trahir. Donc l'histoire, si vous voulez, du christianisme, ce n'est qu'une trahison du message évangélique. Et en même temps, et c'est là qu'il y a quand même un petit miracle, si vous voulez, c'est qu'il y a cette trahison permanente, mais il y a aussi un certain nombre d'idées qui se sont imposées, il y a quand même un certain nombre de pratiques qui se sont développées, notamment celle de l'aumône, celle du partage, etc. Et ces idées-là ont fini par faire leur chemin, malgré les hommes. Et les hommes les ont quand même, si vous voulez, mises en œuvre, et c'est pour ça que moi je pense qu'aujourd'hui, le fait qu'on vive dans des sociétés où il y a la liberté d'expression, où il y a la liberté de croyance, où il y a une démocratie, où tous les hommes et les femmes sont considérés comme libres et égaux en droit, c'est un progrès considérable dans l'histoire de l'humanité. Ça a mis presque 2000 ans à advenir, alors que c'est un message qui était déjà en germe parfaitement dans les évangiles. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est que malgré les hommes, malgré leur pouvoir, malgré tout ce qui s'est passé, c'est quand même advenu. Mmh. Et on vit dans une société libre, ce qui est quand même avec plein de défauts, plein de choses qui ne fonctionnent pas. Mais c'est quand même un formidable progrès par rapport à une société traditionnelle ou un monde antique dans lequel l'individu est soumis au groupe et à la dictature du groupe va s'imposer aux individus.
Ouais. Frédéric Lenoir, pour établir une passerelle entre votre livre et puis le dossier consacré au christianisme primitif dans le monde des religions que l'on trouve dans tous les kiosques actuellement, quelle est la communauté qui se rapproche le plus du message originel ?
Qu'est-ce que vous entendez par communauté ?
Alors, soit les Coptes, soit l'Église orthodoxe, soit une communauté éthiopienne, l'Église en quelque sorte, au sens large du terme.
Écoutez, c'est très difficile de répondre à cette question, parce que je pense que les chrétiens, dans leur diversité historique, où il y a eu des séparations permanentes, comme vous le rappelez, chacun a mis l'accent sur quelque chose de différent. Ce qui fait que vous avez, par exemple, les orthodoxes ont mis l'accent à la fois sur la notion de résurrection, donc leur liturgie est beaucoup plus belle, beaucoup plus joyeuse que la liturgie catholique et beaucoup qui a mis l'accent elle plutôt sur la mort, sur la croix, sur la passion, sur la faute comme on l'a dit tout à l'heure. Donc là on voit que chaque tradition a mis l'accent sur quelque chose de différent. Les protestants ont mis l'accent justement, ils font partie de ce grand mouvement de la Renaissance et de l'humanisme, ont mis l'accent sur la lecture individuelle de la Bible, donc ils sont beaucoup plus individualistes. Les catholiques en même temps, tout en ayant paradoxalement nié la liberté humaine par l'inquisition et tout, ils ont quand même une théologie du libre-arbitre qui est extrêmement développée et qui fait qu'il y a des notions modernes, philosophiques, qui sont advenues par la théologie catholique. Donc je dirais que chaque groupe chrétien a privilégié quelque chose avec ses défauts et ses qualités. Donc on ne peut pas dire qu'il y a une communauté chrétienne ou une confession chrétienne qui aujourd'hui serait plus authentique que les autres. Chacune a mis l'accent sur ce qui lui paraissait être important, et donc on ne peut pas faire de comparaison dans ce type-là. Maintenant, une fois que j'ai dit ça, je pense que de toute façon, les communautés chrétiennes primitives étaient des petites communautés qui étaient assez autonomes les unes par rapport aux autres, et que ça ressemblait absolument pas au modèle catholique et romain. C'est-à-dire l'idée d'un centralisme où dans un point du monde, il y a une centralité qui gouverne le monde entier. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas du tout présent dans l'Église primitive. Mmh. Vous aviez cinq lieux très importants qui étaient Jérusalem, Rome, Constantinople, Alexandrie, Antioche, qui étaient tous considérés à égalité comme des églises autonomes. Et puis chaque grande ville avait son église, les évêques étaient très indépendants les uns par rapport aux autres, donc on peut dire que la diversité était parfaitement respectée. Et puis progressivement, il y a eu le centralisme romain qui s'est imposé, et ça, ce centralisme romain, tel qu'on le connaît à travers ensuite l'histoire de l'Église catholique, c'est évidemment quelque chose qui est assez loin de l'idéal de l'Église primitive.
Oui. Frédéric Lenoir, une dernière question à l'éclairage de votre ouvrage. Essayons de nous projeter un petit peu dans l'avenir. On sait ce qu'il en est maintenant de l'Église catholique romaine. À votre avis, quel est son futur ?
Le futur du catholicisme ou du christianisme ?
Du catholicisme et ensuite du christianisme.
Moi, le catholicisme, je crois que dans sa forme telle qu'il existe maintenant depuis presque 1700 ans, depuis Constantin, hein, c'est-à-dire qu'avec une institution extrêmement pyramidale, hiérarchisée, dogmatique, qui considère que la vérité est donnée par l'institution, elle est véritablement en situation périlleuse dans le monde moderne. Et elle peut, d'une certaine manière, elle a déjà perdu. C'est-à-dire que aujourd'hui, même parmi les gens qui se considèrent comme catholiques, ils ne suivent plus du tout ce que dit le pape. Et l'énorme majorité, plus de 80% selon les sondages qu'on a fait dans le monde des religions des catholiques, sont en désaccord avec le pape sur la plupart des sujets, si vous voulez. Donc on peut dire que le centralisme, le dogme, a perdu. Par contre, l'Église catholique peut tout à fait se développer, se renouveler, sous d'autres formes, c'est-à-dire en étant sensible à la pauvreté, en étant sensible à l'exclusion, en se battant pour la justice. Et c'est toutes ces valeurs chrétiennes qui peuvent animer, si vous voulez, profondément encore l'Église, bien plus que le dogme et la norme, ça les gens n'en veulent plus. Donc moi je crois qu'il y a un certain modèle du catholicisme qui va disparaître, et qu'il y a d'autres formes de catholicisme et de christianisme au sens plus général, qui ont un avenir immense devant eux, parce que c'est revenir à ce message des évangiles qui est avant tout un message d'amour, de justice, de paix, de solidarité. Et ça, je crois que c'est ce que les hommes recherchent profondément et qu'on a encore beaucoup de travail à faire.
Oui. Donc, d'après vous, si j'ai bien compris vos conclusions, l'Église catholique romaine, c'est-à-dire le Vatican, est vouée à disparaître.
Alors, il existera peut-être encore, on aura peut-être encore dans 1000 ans un pape, mais il n'aura plus d'autorité, c'est-à-dire qu'il ne pourra plus gouverner la masse des chrétiens, il sera simplement un symbole. Et je crois que ce qui est condamné à disparaître, c'est véritablement l'autorité du magistère de l'Église qui considère qu'elle possède la vérité. Ça, c'est condamné à disparaître, à mon avis. Ouais. Par contre, le fait qu'il y ait un symbole, que les catholiques se reconnaissent dans la personne du pape comme étant effectivement le successeur de Pierre, pourquoi pas ? Mais ce sera plus un symbole qu'une réalité d'une gouvernance des esprits. Et ça, je crois que plus aucune institution à l'avenir ne pourra véritablement prétendre gouverner les esprits.
Une femme prêtre dans l'esprit originel, finalement, du message du Christ est tout à fait envisageable.
Bien sûr, et ça existe déjà. C'est-à-dire que vous avez déjà, chez les anglicans, et donc en Angleterre, et chez les protestants, des femmes pasteurs.
Bien sûr.
Donc ça existe déjà ailleurs. Dans le catholicisme romain, ça mettra beaucoup plus de temps, mais on ne voit pas pour quelles raisons, toutes les raisons avancées me semblent assez limitées, ça ne se fera pas un jour. Parce que si on revient sur cette égalité fondamentale de l'homme et de la femme, on ne voit pas pour quelles raisons de différence radicale les femmes ne pourraient pas accéder à la prêtrise.
Merci beaucoup Frédéric Lenoir, j'ai passé une heure délicieuse en votre compagnie.
Merci à vous, ça m'a fait très plaisir de pouvoir partager ces réflexions avec vous et vos auditeurs.
Alors, je rappelle le titre de votre livre, Le Christ philosophe, aux éditions Plomb. Et puis, évidemment, j'invite celles qui nous écoutent également à découvrir Le Monde des Religions, qui est en kiosque actuellement avec un très bon dossier sur le christianisme primitif. Merci Frédéric Lenoir, bonne fin de soirée.
Merci à vous, au revoir.
Les aventuriers de l'étrange, Louis Bénédi, sur Sud Radio.
Après Frédéric Lenoir, dans quelques instants, mon deuxième invité va venir nous rejoindre dans Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Nous allons parler du rapport tout à fait étonnant, surprenant, fascinant qu'il existe entre les chamans d'Amérique du Sud et leur environnement végétal. Comment est-ce qu'ils puisent leur savoir auprès des plantes ?